I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. À partir de 13h, notez-le, nous écouterons les mots déchirants de la maman de Lucas, ce jeune garçon homosexuel de 13 ans qui s'est suicidé en janvier. La prise de parole de sa mère insistera sur la responsabilité des harceleurs de son fils, des collégiens comme lui, qui font face désormais à la justice. Sur le front de la mobilisation contre la réforme des retraites, à quoi s'attendre demain? Probablement beaucoup de monde. Quelles perturbations, quelles contestations dans la rue? Et puis nous parlerons de la bataille politique avec le ton qui se durcit et Gérald Darmanin qui vient de confirmer le mot qu'il a utilisé, la bordélisation du pays. Elle a commencé selon lui. Il annonce également 11 000 policiers et gendarmes demain. Nous consacrerons une large partie de Midi News à cette actualité. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chers.
Bonjour Sonia et bonjour à tous. Elisabeth Borne a présenté ce matin un plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec comme objectif lutter notamment contre les discriminations à l'embauche. La Première ministre souhaite également un renforcement de la formation des enseignants et des agents de la fonction publique d'État. Elisabeth Borne qui a présenté dans la matinée ce plan à l'Institut du Monde Arabe. On l'écoute.
Nous allons renforcer la formation initiale des enseignants en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, et organiser une journée obligatoire de formation pour tous les personnels pédagogiques des établissements scolaires tous les 5 ans. J'ajoute que les agents de la fonction publique seront formés et que nous donnerons des outils de formation au secteur privé.
Et puis 3 semaines après le suicide de Lucas, 13 ans, sa mère sort du silence. Elle va s'exprimer dans 1 heure en direct sur CNews, donc à 13h. Cet adolescent s'est donné la mort le 7 janvier dernier après avoir été harcelé dans son établissement scolaire en raison de son homosexualité. Et on va aller sur place à Épinal dans les Vosges retrouver nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonjour Jeanne, pour la toute première fois, la mère de Lucas va s'exprimer à la télévision.
Oui Simon, pour la première fois devant les caméras depuis le drame survenu il y a maintenant plus de 3 semaines, il y a 2 jours, cette mère de famille s'est confiée dans le quotidien Vosges Matin dans lequel elle expliquait que selon elle tout n'a pas été fait pour sauver son fils. Aujourd'hui elle veut que justice soit faite, elle qui avait à plusieurs reprises émis des signalements de harcèlement auprès de l'établissement scolaire. Cette maman qui veut aujourd'hui faire de la lutte contre le harcèlement scolaire et l'homophobie les combats de sa vie, elle veut porter un message d'espoir. Une marche blanche sera organisée ce dimanche ici à Épinal en mémoire du jeune adolescent. Dans le même temps, l'enquête se poursuit. 4 jeunes adolescents âgés de 13 ans, 2 filles et 2 garçons vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide.
Merci beaucoup Jeanne Cancard et merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne sur place. À la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, c'est le baptême du feu pour les députés. Le texte est débattu en ce moment même en commission à l'Assemblée nationale. 7000 amendements ont été déposés, 6000 par la NUPES, mais 5600 ont été retenus. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, compte sur le Parlement pour faire bouger les choses. On l'écoute.
Le Parlement est légitime. Il est le représentant du peuple. Mais la démocratie, ce n'est pas non plus des chèques en blanc en permanence. Et je crois qu'il faut écouter la respiration de la société. Donc, j'invite pour l'instant les parlementaires à ne pas aller tête baissée dans le report de l'âge légal à 64 ans parce que c'est rejeté par une immense majorité des salariés et aujourd'hui même des retraités.
Et en marge de cette manifestation, Gérald Darmanin annonce 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France. Dont 4000 dans la capitale. On va écouter le ministre de l'Intérieur. Il était à Marseille ce matin.
Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4000 rien que pour Paris. Ces 1000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés. Mais je veux constater que les organisations syndicales avec lesquelles nous avons d'excellents rapports d'un point de vue de sécurité jouent parfaitement le jeu.
Et voilà pour ce tour de l'actualité à midi. Place au débat. Midi News, c'est avec vous, Sonia Mabrouk, et vos invités.
Exactement. Et nos invités autour de cette table, Jérôme Jiménez nous accompagne. Bonjour à vous. Merci d'être là. Porte-parole IDF UNSA Police. Et bien sûr, nous allons parler du dispositif policier et de gendarmes qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur pour demain, pour la mobilisation face à la réforme des retraites. Philippe Doucet nous accompagne. Merci, Philippe.
Bonjour, Sonia.
Bonjour à vous. Maître Pierre Gentil est avec
Bonjour.
Nous. Bonjour. Notre journaliste Éric de Ritmaten nous accompagne. Bonjour Eric. Caroline Pilas nous fait l'amitié d'être là.
Bonjour
à vous Caroline. Arthur de Vatrigan fait également partie de ce tour de table.
Bonjour Sonia.
Bonjour à vous, merci d'être là. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, non pas sur le dispositif policier, on va en parler, mais sur le mot bordélisation. Je bordélise, tu bordélises, c'est bien connu. Mais oui, enfin, surtout, il parle à l'alliance de la gauche. Hein. Écoutons-le.
Du premier... Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais... Tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est irrespectueux envers les classes populaires, et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le pays, et il faut évidemment tout faire pour éviter que cela ne soit au rendez-vous. C'est ce que font les policiers et les gendarmes dans ces manifestations. Je les en remercie une nouvelle fois. Et c'est ce que va faire l'Assemblée nationale très bientôt. Et on sera tous, je crois, attentifs à ce grand moment de démocratie à l'Assemblée et au Sénat.
Alors expliquez-moi la stratégie. Bon, moi, elle me paraît claire, mais expliquez-nous la stratégie, Pierre Gentil. Est-ce que c'est habile aujourd'hui? Parce que là, ça crispe, ça enflamme, alors, ça met de l'électricité alors qu'il y en a pas mal.
Alors, habile, je vais vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne rehausse pas le niveau politique d'utiliser ce type d'expression. Maintenant, peut-être qu'il y a sans doute une forme d'habileté, c'est de polariser le débat, c'est de dire c'est la NUPES ou nous. Et à qui s'adresse Gérald Darmanin? Il s'adresse, je pense, aux députés LR qui sont indécis. Car en réalité, quand on regarde les projections de vote, il n'est pas sûr que cette réforme, en l'état, passe au Parlement. Les projections montrent que c'est assez serré et qu'on a une vingtaine de députés LR qui sont indécis qui n'ont pas encore fait part de leur vote. Et c'est eux qui peuvent faire basculer, alors même, je le rappelle, qu'Éric Ciotti a annoncé qu'au nom des Républicains, puisqu'il est président des Républicains, que les Républicains allaient donc voter cette réforme. Imaginez si cette réforme ne passe pas
donc
à l'Assemblée.
C'est nous ou le chaos.
Le gouvernement passera 49-3. C'est nous ou le chaos. Et comme le gouvernement, c'est sa première grande réforme sous cette Assemblée qui n'a qu'une majorité relative, imaginez la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron si cette réforme ne passait pas.
Alors, on a compris la stratégie, mais est-ce que ce n'est pas risqué, Arthur de Vatrigan? Parce que là, on crispe. Vraiment, véritablement, il y a une partie des Français, une majorité des Français contre la réforme qui vont se retrouver dans la rue demain et qui ne veulent pas du tout bordéliser le pays.
C'est vrai qu'il prend un peu les Français pour des imbéciles parce qu'en effet, la stratégie, je suis d'accord avec Maître Gentil, c'est de polariser. Sauf que même s'il veut adresser un message aux élus LR, les élus LR, en tout cas les députés, quand ils reviennent dans leur circonscription, ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs et une majorité de leurs électeurs sont opposés à la réforme. Après, sur le mot bordélisé concernant Mélenchon, il n'a pas tort. On sait très bien que l'extrême-gauche, de toute façon, le principe, c'est la division de l'unité, c'est le projet révolutionnaire, c'est de fracturer le pays. Sauf que là, ce n'est pas le sujet. Le Mélenchon n'est pas la tête d'affiche, n'est pas le leader contre la réforme des retraites, même si, en termes d'amendement, la NUPES est largement devant. Mais on a l'impression, quand même, encore une fois, d'avoir la finesse d'un hippopotame chez Darmanin, c'est-à-dire le coup de menton à la Sarkozy et en même temps le mépris à la Macronie, quoi. Donc, si vous voulez exciter les gens, si vous voulez radicaliser le débat et en même temps. Je me demande s'il n'y a pas dans ce côté-là, s'il n'y a pas.
Le gouvernement, j'aurais tendance à m'adresser à mon électorat, à ceux qui veulent l'ordre, à ceux qui veulent l'autorité, parce qu'il y a une partie quand même.
Oui, mais là, sur le débat des retraites, c'est un débat qui est, qu'on veut simplifier, qui est très compliqué. Parce que si vous me posez la question la dernière fois d'un référendum, en fonction des questions, des sujets que vous allez poser, les gens vont être pour ou contre. Sur les jeunes spéciaux, la majorité des gens seront contre. Sur la retraite à 75 ans, la majorité des gens seront contre.
On reste sur la stratégie politique. Moi, je veux savoir si, en faisant ça à la veille, ou à l'avant-veille d'une manifestation, puisqu'il l'a dit dimanche, est-ce que ça peut être payant? Parce qu'une partie des Français va se dire, Caroline Pilias, il y a le parti de l'ordre, l'autorité. Finalement, on est résigné, on sait qu'elle va passer cette réforme. Ou alors, au contraire, c'est risqué pour le gouvernement.
C'est payant pour une partie de l'électorat, comme vous le disiez, hein. De la Macronie, mais je trouve que c'est extrêmement dommageable, ça oppose un peu plus les Français. Alors je suis la première à reprocher à M. Mélenchon et à une partie de la NUPES son outrance fréquente, mais que fait M. Darmanin avec ce terme péremptoire? il fracture un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il est en train d'opposer les Français qui vont manifester demain dans la rue, qui vont bordéliser le pays, qui vont mettre le souk globalement, et eux reviennent au fait qu'ils soient fermes, autoritaires, et que cette réforme doit passer absolument. Il y a un côté très prétentieux et narcissique. Et n'oublions pas aussi que M. Darmanin, même s'il répond directement à la Mélenchonie, à LFI, évidemment, c'est une passe d'armes, mais à des ambitions politiques pour 2027. Donc ce côté populaire, moi je trouve ça vraiment dommageable, parce que là il est en train de parler un peu comme fait Mélenchon, c'est-à-dire c'est le bordel. Il ne peut pas employer d'autres termes, ou ils ne peuvent pas essayer de calmer le jeu, justement, raison garder. Moi je suis assez choquée de cette stratégie politique.
Ça vous choque, Philippe? Parce que là c'est vraiment le...
Bon, il y a deux
sujets.
D'abord,
le tout, le rouge qui tache.
Maître,
là, on voit bien.
Il évoquait tout à l'heure. Bon, moi, d'abord, je pense qu'un responsable politique, il faut qu'il fasse attention aux mots qu'il emploie, parce que si on peut tous tomber dans la vulgarité, c'est pas comme ça qu'on élève le niveau du débat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, enfin, on n'est pas chez Poutine ici, donc on a le droit dans ce pays de manifester tranquillement, de, d'exprimer des opinions.
Mais il ne s'en prend pas au droit de grève, Philippe Doucet. Milliers d'amendements au Parlement.
Non, mais
c'est
le Parlement, il a le droit de faire son travail. Enfin, c'est même, il est élu pour ça. Enfin, le Parlement,
faire son
il est
travail,
pour
c'est des milliers d'amendements. Donc, l'obstruction.
Oui, mais c'est pas l'obstruction.
7000 amendements, c'est pas l'obstruction.
Là, c'est pas l'obstruction. On n'est pas sur des amendements, on rajoute une virgule, etc. Donc, c'est pas le cas. Donc, là, le sujet, c'est que. Et quand il parle qu'on mépriserait le travail, moi, je ne méprise pas le travail et le mépris des classes populaires, franchement, c'est pas un projet qui méprise les classes populaires, ceux qui travaillent, et là, tous
et
ceux qui ont 20 ans, 21 ans,
Philippe,
qui vont être...
Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à la majorité, à sa majorité qui est en
proie
au doute.
Oui, mais elle est fracturée, sa majorité. 12 députés Renaissance ne veulent pas voter le projet. Les Républicains qui devaient être pour, ben finalement, c'est pas si pour que ça.
J'ai compris. Voilà. Il s'adresse donc à cette majorité qui est en proie au doute. Il s'adresse aux LR qui sont en train d'hésiter. Il leur dit, voilà, il y a deux possibilités, deux camps. Soit vous
êtes... Oui, mais le projet est tellement rejeté, y compris dans leur propre camp, que cette stratégie d'un clivage, réinstaller un clivage... À mon avis, je ne suis pas sûr que ça va vraiment accrocher.
Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale ? Nous sommes avec notre journaliste Élodie Huchard. Justement, Élodie, le ministre de l'Intérieur, a pointé d'ores et déjà, dit-il, et c'est son mot, la bordélisation qui a commencé, du fait de ces très très nombreux amendements déposés et qui vont continuer à l'être par la NUPES.
Oui, justement, c'est ça qui a occupé le début des discussions en commission ce matin. Le texte est étudié depuis 9h30. Premier débat d'ailleurs, est-ce qu'il faut changer de salle ? Parce qu'un certain nombre de députés de la NUPES sont venus assister au débat. Ils ne font pas partie de la commission des affaires sociales, mais ils ont le droit quand même d'assister à ces échanges. Donc la salle, effectivement, est relativement grande, mais manque de place parce que les députés sont trop nombreux. Et puis, deuxième débat, est-ce qu'il faut justement plus de jours de discussion ? Normalement, les députés ont 27 heures. Depuis ce matin 9h30 jusqu'à mercredi minuit. Mais il y a 5693 amendements qui ont été retenus en 27 heures. Je vous fais le calcul, il faudrait étudier un amendement toutes les 16 secondes et évidemment, ça n'est pas possible. Donc on voit bien que cette bordélisation dont a parlé Gérald Darmanin, eh bien c'est ça qui a occupé la forme avant le fond finalement sur cette réforme. Alors sur le fond, pas de grande surprise ce matin. La gauche explique qu'elle ne veut pas de ce texte. La droite, évidemment, les Républicains espèrent peser, mais toute l'opposition déplore qu'on s'intéresse à l'aspect financier de cette réforme et pas à l'aspect humain. Et puis surtout l'opposition a conscience qu'elle a avec elle l'opinion publique. Mathilde Panot, la présidente des Insoumis ici à l'Assemblée, expliquait au gouvernement, plus vous parlez, plus les Français sont contre cette réforme. Alors évidemment du côté de la majorité, on tente de tenir bon. La première ministre l'a rappelé, 64 ans, ça n'est pas négociable. Et puis la rapporteure du texte répète qu'elle comprend qu'on demande des efforts aux Français, mais que ce sont des mesures de justice sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail en commission, ça va être un tour de chauffe. On va regarder comment se comportent les oppositions parce qu'à partir du 6 février, le texte arrivera dans l'hémicycle et là, on repart à zéro.
Merci beaucoup Élodie Huchard et on voit bien que le gouvernement veut que la bataille, si je puis dire, se passe au Parlement et pas dans la rue parce que c'est la crainte. On va parler du dispositif de sécurité, police et gendarmes dans quelques instants, Jérôme Jiménez. Mais c'est vrai que quand on utilise ce type d'expression bordélisée, qu'on dit qu'il y a un camp, celui du travail, et puis le gauchisme, paresse et bobo, ça peut être de nature, je ne vous demande pas là l'analyse politique, vous êtes sur le terrain, c'est très important, mais vous-même, vous allez peut-être manifester demain, vous serez parmi les manifestants. Oui. Comment vous prenez ce genre de propos aujourd'hui ?
Non, mais ce qu'il faut surtout éviter, vous l'avez bien dit, c'est qu'il n'y ait pas de crispation et qu'il y ait des bonnes intentions. Je vous le répète tout le temps, il va y avoir des milliers de personnes sur la voie publique, et l'intérêt premier, c'est que cela se passe bien. Et je ne sais pas si je ne vais pas commenter ces paroles politiques ou ces mots qui sont employés. Nous, on souhaite vraiment que ça se passe bien. On sait qu'il va y avoir du monde et on va mettre un dispositif de sécurité ambitieux et sérieux devant.
Et qui a progressé depuis la fois dernière. Ça veut dire que le gouvernement et les autorités attendent plus de monde. Écoutons à ce sujet le ministre de l'Intérieur.
Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces 1 000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés. Mais je veux constater que les organisations syndicales avec lesquelles nous avons d'excellents rapports, d'un point de vue de sécurité, jouent parfaitement le jeu.
C'est un signe, hein. C'est-à-dire que là, il y a une vraie montée en puissance attendue pour demain.
Oui, il y a une montée en puissance. Après, M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a bien expliqué. Il parle aussi de la communication et l'intérêt de travailler avec les organisations syndicales. Pourquoi les services d'ordre ont son rôle à jouer? Les gendarmes et policiers ont leur rôle à jouer. C'est très important qu'il y ait une coordination et une complémentarité pour tous les acteurs de la sécurité lors des manifestations, qui, je vous le rappelle, le rôle premier des policiers est d'assurer la sécurité des personnes dans le cortège et que la manifestation se passe bien. Il y a un autre petit élément qui est aussi important, le trajet, le parcours.
On
va être sur la rive gauche.
Là, vous parlez,
on a un petit peu moins l'habitude.
De Paris.
Exactement. Ouais. C'est vrai que le secteur République, Bastille, Nation, les commerçants sont habitués aux manifestations. Là, on a déporté le trajet, on est sur un secteur complètement différent, donc ça va être très très important demain.
Donc le coup d'envoi, ça sera en tous les cas dans la capitale à partir de 14h, place d'Italie, pour aller jusqu'à la place... Voilà, exactement.
Oui, donc,
place Vauban dans le 7e arrondissement.
Sur la rive gauche des manifestations, il y en a.
Oui, il y en a.
Sauf que ce n'est pas des manifestations de gauche, ils se terminent dans la violence. Donc en fait, on n'est pas habitué à des débordements de manifestations sur la rive gauche, mais les manifestations, il y en a toujours eu plein sur la rive gauche.
Bon, on va voir la carte justement du trajet, parce que c'est vrai, on va préciser que la fois dernière, c'était donc, mes souvenirs, c'était place de la République pour aller place de la Nation, parce que c'était quand même un trajet qui était assez conséquent. Et là,
qui a dû être doublé vu le nombre de manifestants. Du coup, les gens sont aussi passés par boulevard Voltaire. Il y a eu deux manifestants.
C'était surtout lié en fait aux deux épisodes d'affrontement où il y a eu l'itinéraire bis qui a été emprunté au départ de République pour que le cortège puisse démarrer.
On va en parler. Oui, Eric de Ritmaten.
Ça passe pas loin de Matignon, ce qui est un symbole. Il ne faut pas oublier que boulevard des Invalides, c'est là où part la rue de Varennes en direction de Matignon.
Et pas loin de l'Assemblée nationale aussi.
Voilà, on parle de Paris, mais ce qui va être très important comme indicateur demain, Pierre Gentillet, c'est aussi dans les villes, les petites villes, les villes moyennes, dans certaines communes, dans certaines zones, on n'a pas l'habitude de voir une telle mobilisation. Et véritablement, hein, on a différents capteurs, nos journalistes qui nous disent qu'il y a beaucoup de préparation, de gens qui vont descendre dans la rue. Et des gens qui n'ont pas forcément parfois l'habitude de manifester.
C'est ce qui avait marqué, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient dans les manifestations et c'était leur première manifestation. Mais ce qui a le plus marqué, c'est que dans des petites villes, on avait vraiment une surreprésentation. Dans des villes de 10-15 000 habitants, vous aviez des manifestations. Alors, ça glanait sans doute aussi des villages aux alentours, mais des manifestations de 3 000, 4 000 personnes. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. C'est surtout que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des manifestations de ce type. Je rappelle qu'on a eu un contexte Covid qui a quand même congelé les questions sociales pendant un temps. Et là, c'est vrai qu'il y a cette éruption sociale qui arrive. Et c'est tout à fait surprenant. Enfin, tout à fait surprenant. Non, c'est pas si surprenant. Mais c'est assez marquant de voir ces mobilisations un peu partout en France et pas seulement à Paris, c'est vrai.
Il faut toujours espérer qu'elles se passent bien. S'il y a des blocages, Éric de Ritmaten, si le pays, alors là, pour le coup, est bordélisé, comme dit le ministre de l'Intérieur, si véritablement ça continue la galère dans les transports, dans les écoles, etc., qui sera perçu comme étant comptable d'un tel blocage?
C'est la durée. Rappelez-vous, en 95 ou en 2010, ça avait duré 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est la répétition. Et en fait, les syndicats jouent là-dessus. Après, c'est aussi la mobilisation du privé. Est-ce qu'elle sera présente dans la rue demain? Faut pas oublier que c'est un peu toujours les mêmes administrations et les mêmes entreprises publiques qui défilent. Voilà. Donc, même si, bien sûr, la réforme est contestée, on n'a pas tellement de privés pour l'instant qui descendent dans la rue. Alors, qui sera comptable? Écoutez, c'est le grand. Moi, je pense, d'après ce que j'ai lu tout ce week-end, c'est qu'effectivement, il y a un moment où le gouvernement va peut-être compter justement sur cette dégradation pour que l'opinion s'inverse. C'est-à-dire que se dire, bah, finalement, vous voyez, à cause de ce désordre, c'est finalement la base populaire qui en souffre le plus, de ne pas avoir de train, de ne pas avoir de métro.
C'est en ça qu'on a intérêt, pour les manifestants, à ce que les choses se passent bien. Parce que du coup, un des éléments qui dégrade l'image d'une revendication, c'est quand il y a des heurts, des agressions, des dégradations de biens. Donc il est extrêmement important, vous l'avez rappelé, qu'entre les services d'ordre des syndicats et les forces de police et de gendarmerie, que les choses se passent bien. L'autre aspect, il peut y avoir l'histoire du public-privé, mais il y a aussi ce qui vient d'être évoqué précédemment, c'est que là, tous les camarades que j'ai eus qui étaient dans les régions, ils n'avaient jamais vu ça depuis des années et des années, donc dans énormément, enfin sur l'ensemble de la
Philippe,
France.
Mais il y a quand même un paradoxe. Vous avez une majorité des Français qui est contre cette réforme des retraites, et quand vous voyez dans les détails des sondages, dans les nuances, vous avez une majorité des Français qui savent ou qui admettent qu'elle va passer, Arthur de Vatrigan, comme une forme de résignation, de se dire bah, finalement... On sait que ça va passer, mais on marque le coup.
La résignation est due à 5 ans, à un quinquennat précédent, où les députés étaient juste une caisse d'enregistrement. Or là, ce n'est pas le cas. Et c'est la première grande loi où il va y avoir un vrai débat à l'Assemblée. Et à tel point qu'on voit même chez des LR des revirements. Et l'importance des mobilisations dans les régions, dans les moyennes villes, ça va être pris en compte par les députés. Oui. Parce qu'ils doivent encore une fois rendre des comptes. Et donc ça change tout, parce que quand vous revenez dans votre circo, et que vous avez fait un vote, vous en prenez plein la tronche derrière. Donc, ce qui va compter, je pense, c'est bien plus que le nombre à Paris, où on sait qu'il va y avoir un débat de chiffres, c'est la région, dans les villes moyennes. Et honnêtement, là, à l'Assemblée, entre ceux qui veulent envoyer des plombs à Macron, le MoDem, Renaissance, Horizon, pardon, je comprends toujours les deux, et les députés LR qui seront espèce d'entre-deux, parce qu'il va y avoir la loi immigration derrière, donc passer deux fois pour un supplétif de la Macronie, c'est compliqué. Donc honnêtement, là, c'est en train de changer, justement. Je pense que les Français n'envisagent plus que ça soit si évident que ça que la loi passe. Bon. Malgré ce que dit Mme Borne en expliquant que ce n'est pas négociable,
Caroline,
avant que ça passe à l'Assemblée. Quoi.
Dans l'état d'esprit, il y a un genre de bis repetita, surtout en région des gilets jaunes. Souvenez-vous des gilets jaunes du départ. La genèse, c'était à cause du pouvoir d'achat et de la hausse du carburant. C'était une vraie injustice sociale. Et nous sommes tous conscients qu'il va falloir travailler plus pour sauver notre système des retraites, le régime des répartitions. Mais il fallait faire du cas par cas en fonction des domaines professionnels. Et ce qui a péché, pour moi, c'est vraiment tout ce qui a trait à la pénibilité et au travail chômage des seniors.
Mais est-ce que c'est intéressant, j'ai entendu dire Mathilde Panot qui a dit tout à l'heure, plus les ministres parlent, plus ils viennent s'expliquer, plus ils font comme ils disent, de la pédagogie, eh bien plus la fronde s'amplifie. Et j'ai vu que dans les sondages, les femmes, de plus en plus...
Parce qu'il y a une médiocrité en termes de communication. La tactique politique, moi je reviens là-dessus, a été catastrophique. On peut entendre...
De parler de l'urgence financière simplement, de l'aspect comptable.
Mais écoutez, qu'on arrête de nous dire à chaque fois...
Écoutez quoi, la pédagogie, elle est nécessaire cette réforme et il y a une urgence financière.
Non mais ça, on en est tous conscients. Simplement... Prendre les gens de haut, comme l'a fait beaucoup la Macronie, c'est ça qui n'est pas passé encore.
Mais c'est la Macronie. Quand la question des femmes, vous ne pouvez pas être en surplomb comme ça. Quand vous avez les premiers de cordée qui sont pris toute la crise Covid, qui font tourner, tout le monde voit les carrières hachées, le temps partiel.
Tout le monde a fait ses calculs.
Bah oui.
Donc il n'y a pas besoin d'expliquer. En fait, on a fait nos calculs et on sait.
Il dénie aux gens un avis politique. Si on écoute les porte-paroles du gouvernement, c'est les gens n'ont pas compris, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Alors il faut qu'on leur dise non, c'est pas une question de pédagogie.
C'est qu'il y a un effort à faire accepter.
Ça fait un bout de temps qu'on en parle, cette réforme des retraites. Pardon, je pense qu'on a suffisamment été, et nous ici sur le plateau, on s'est quand même assez bien enseigné sur tous les chiffres qui ont été matraqués, sur les rapports qui ont été faits. C'est bon. Les gens ont un avis politique. Oui. Donc maintenant, c'est pas avant-hier, quand on entend le porte-parole du gouvernement qui nous dit, Clément Beaune, pardon, qui nous dit, il faut faire de la pédagogie. Non, arrêtez de prendre les gens
pour des
enfants.
D'accord, donc la bataille de l'opinion est perdue. Mais attendez.
Il n'y a pas d'alternative. Il est dans une logique qui pense qu'une logique libérale classique, il n'y a pas d'alternative, vous rentrez dans la seringue. Eh bien, les gens, ils disent non. Il y a, d'ailleurs, une partie de la révolte vient peut-être au-delà du projet des réformes des retraites. Il vient en disant si, il peut y avoir d'autres choix qui sont faits. Doit y avoir un débat politique dans ce pays, pas simplement un débat techno.
Absolument.
Mais pardon, alors qu'il n'y ait pas une pluie d'amendements pour qu'il y ait un débat démocratique et politique.
Deux exemples. Réforme des retraites 2020, 40 000 amendements déposés. Là, il y en a 7 000. Réforme, une loi sur l'énergie passée en 2006, 137 000 amendements déposés. Là, c'est de l'obstruction. Là, vous en avez 7 000. Et donc une partie va être toquée parce que ça concerne l'augmentation du budget et c'est le seul gouvernement
peut 44.
On marque une pause et on va revenir avec vous et tous nos invités. Alors moi, ce qui m'intéresse, les mairies avec l'appel à fermer les mairies. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir de neutralité et de continuité des services publics ou est-ce que les maires, comme les citoyens, ont le droit, peut-être même pour certains le devoir, de manifester quand ils ne sont pas d'accord? On va voir aussi quelles sont les perturbations. C'est vraiment un mardi noir dans les transports et vous verrez que de nombreux Français disent écoutez, télétravail, on ne va même pas essayer de venir. Merci d'être avec nous. Notez-le, à partir de 13h, nous suivrons la conférence, la prise de parole de la mère, de la maman de Lucas, qui c'est ce jeune garçon homosexuel qui s'est suicidé. Elle va revenir sur son combat justement contre le harceleur de son fils. Ce sera à partir de 13h. Pour l'heure, on poursuit sur le front de la contestation contre la réforme des retraites. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
Les saisies de faux billets en euros sont en hausse en 2022, avec en majorité des coupures de 20 et 50 euros. Au total, presque 400 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation l'an dernier, soit une hausse de 8,4% qui reflète la reprise de l'activité économique en 2022 après la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid. Vinci Autoroute va faire un geste sur les tarifs des péages des trajets courts. Les tarifs des péages autoroutiers doivent augmenter de près de 5% au 1er février, c'est-à-dire mercredi. Vinci Autoroute a donc décidé de bloquer sur l'ensemble de son réseau les tarifs de péage de 70% des trajets de moins de 30 km. Et puis le tableau, la partie de bateau de Gustave Caillebotte, considéré comme un trésor national, intègre le musée d'Orsay à Paris aujourd'hui. Le tableau sera également exposé dans plusieurs musées français dans le cadre d'une célébration nationale autour des 150 ans de l'impressionnisme.
Merci pour les titres. À 13h, nous écouterons la prise de parole de la maman de Lucas, Séverine, meurtrie et dévastée par la disparition de son fils. Elle va bien mettre en avant son combat contre le harcèlement, alors que les harceleurs de son fils font face à la justice. Nous en parlerons. Pour l'heure, on va rester sur l'actualité de la contestation de la réforme des retraites, avec cet appel aux mairies de fermer. On va écouter dans un instant Fabien Roussel, mais... Éric de Rethmatten, j'ai envie de vous dire, mais qui est l'allié encore du président pour mener cette réforme des retraites? Qui?
Dans les sondages, 40%, c'est ça, 35% qui sont pour la réforme.
Oui.
Non, mais voilà, c'est une question, en fait. Moi, je pense que c'est plus un combat politique. Emmanuel Macron s'est dit, il faut y aller, on fera ce report de l'âge légal à 64 ans. Mais il y avait peut-être d'autres solutions. Hein. Vous savez, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il s'est mis à dos les organisations syndicales et que ces retraites ont été créées par les organisations syndicales et par le patronat. On l'oublie, ça. Mais ce système, justement, c'est un système paritaire et que, pour cette réforme, ils n'ont pas été mis dans la boucle. Et d'ailleurs, ils l'ont fait payer cher, hein, parce que quand j'assistais aux réunions à Matignon, les syndicats venaient à tour de rôle, ils ressortaient, ils étaient dépités. Ça ne passait pas, quoi, si vous voulez. On sentait bien que même Elisabeth Borne, qui est pourtant prête à discuter, bon, elle avait cette feuille de route et elle s'y tenait. Donc, c'était pas des négociations, c'était pas des discussions. C'était, voilà, on est devant une liste, on va faire ça, un point, c'est tout. Et ça a vraiment créé cette friction et cette opposition qui se renforce. On verra demain, mais on sent quand même qu'il y a un poids maintenant qui devient un peu...
Avec les maires qui peuvent aussi rejoindre et les mairies qui pourraient fermer, en tous les cas, Anne Hidalgo à Paris affirme qu'elle va suivre l'appel qui a été lancé par Fabien Roussel, qui nous a dit hier au grand rendez-vous qu'il pourrait y avoir une centaine de mairies qui va suivre ce mouvement. Écoutons-le.
Il y aura plusieurs centaines de mairies qui ou fermeront symboliquement ou permettront à leurs agents d'aller manifester sans perte de salaire, ou déposeront des banderoles.
De mairies.
Oui, je pense que ce sera de l'ordre de plusieurs centaines de mairies.
Sur la neutralité d'une mairie, quand même. Mais ça devrait interroger d'abord les services publics.
Ça devrait d'abord interroger le gouvernement sur la profondeur de la colère qui existe dans le pays et qui va au-delà du rejet de cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle vient comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Bien, qu'en pensez-vous? Parce que là, c'est assez. Je crois que c'est assez inédit de mon point de vue. Là, les mairies qui ferment en nombre de centaines et des centaines.
Privatisation idéologique en fait du service public. Parce qu'au nom d'une idée, la mairie s'octroie le droit de ne pas assurer la continuité du service public. Et en plus, ce qu'a dit Fabien Roussel, d'assurer le paiement des grévistes, des salaires des grévistes. Donc, la mairie sort de son rôle. Et elle privatise au nom d'une idée, de son idéologie, d'un point de vue. Elle privatise et donc prend en otage. des administrés. Excusez-moi, mais vous avez dans des petits villages, je pense à ma petite grand-mère qui va devoir aller lundi ou mardi, non pas le lundi parce que c'est fermé généralement, mais mardi à une mairie pour faire des papiers ou je sais pas quoi, bah, elle pourra pas parce que la mairie est fermée pour cause de grève. Bon, bah, c'est une prise en otage.
Bah, en fait, c'est juste travail. L'extension du droit de grève aux mairies. Enfin, je vois pas ce qu'on découvre, effectivement.
Je sais pas si c'est légal. Hein, je crois que c'est à la ligne. Bah,
écoutez, c'est un service public. Par exemple, si on parle des services de la mairie qui sont en charge de faire. Alors, c'est plus la préfecture, c'est vrai, mais par exemple, les cartes d'identité, etc. Vous avez dans certaines mairies, c'est pris en charge. Bah, par exemple, la mairie de Paris le fait. Écoutez, c'est un service public. Un service public a la possibilité de faire grève. Il n'y a rien d'extraordinaire.
Tous les Parisiens, par exemple, ne sont peut-être pas contre la réforme des retraites. On dirait que la mairie ferme parce qu'on est tous contre, ou en tous les cas, les Parisiens
seraient tous contre. Que les maires aident des manifestants là sur l'histoire de la réforme des retraites, mais c'est avec les codes sur plein d'autres sujets. Enfin, quand j'étais maire d'Argenteuil, on a mis en place des dispositifs parce qu'il y avait des manifestations. Vous fermez un boulevard, vous pouvez dire aussi que vous fermez un boulevard, vous empêchez les gens de circuler. J'ai mis le jardin public de la mairie.
Vous banalisez les choses, Philippe Doucet. Il y a une continuité des services publics, une neutralité.
Là,
on est dans une bataille politique et donc tout le monde va utiliser toutes ses armes. Voilà, donc,
mais c'est ma question. Est-ce que tous les moyens sont permis? On parlera
de ça. C'est les moyens sereins, tranquilles. C'est pas, on n'est pas. Oui, c'est les moyens pacifiques.
Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est moral?
Non, mais attendez, ça n'est pas à moi de juger.
C'est une bataille symbolique. Et donc, les mairies.
Non, mais attendez, c'est un service aussi dans une mairie.
D'accord, mais quand on ferme des. Moi, ça m'est arrivé de fermer des jardins publics pour permettre des regroupements.
C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Eh bien, voilà, donc vous fermez, ça m'est arrivé de jardins
publics. Éric, ça vous surprend ou pas?
Ça me choque pas parce que je me dis qu'après tout, ils ont le droit de se mettre en grève, sauf si c'est interdit, mais c'est que 100 mairies, si j'ai bien compris. Alors, je crois me souvenir qu'il y a 36 000 communes en France.
35 500.
Oui, vous avez raison.
C'est quand même pas tous un service.
En termes de pourcentage,
ça sera pas... Non, moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout qu'on paye, comme vous le disiez, les agents municipaux qui vont décider de faire grève.
Ça, après, ça dépendra des mairies aussi. Ça sera peut-être pas
après, soyons honnêtes, tout ça est une question de politique globale contre Renaissance. C'est essentiellement des gens du PS ou de la NUPES, plus globalement parlant, qui vont décider de soutenir les manifestants parce qu'ils ont toujours été contre, et vous le savez très bien, Philippe, cette réforme des retraites.
Ah oui, c'est clair.
Mais moi, ce qui me heurte concernant Paris, je vais en revenir là où j'habite, Madame Hidalgo, évidemment, est responsable de sa mairie, elle a une fonction, mais la mairie de Paris ne lui appartient pas. Donc en faisant ce genre de choses, c'est aussi déontologiquement sortir un peu de son rôle de neutralité. Après, une fois de plus, moral ou immoral, ça n'est pas à moi de le juger.
Oui, mais illégal ou illégal, moi je me pose la question.
Il paraît que c'est illégal. Moi, c'est ce que j'ai entendu, Sonia.
Bon, on va y réfléchir. Pour l'heure, le dispositif de sécurité, 11 000 policiers et gendarmes a donc annoncé le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a déjà, Jérôme Jiménez, toujours à la veille, je vous remercie d'être là, vous avez des premières tendance, il y a les notes des renseignements généralement qui expliquent les craintes ou en tous les cas les attentes. Quelles sont-elles pour demain?
Donc oui, là, ce qui est prévu, c'est, je crois, c'est pour ne serait-ce que c'est plus d'un million de personnes sur tout le territoire national. On estime à peu près entre 80 000 et 100 000 manifestants sur la capitale. Toujours est-il qu'on va développer, je le sais déjà, de nombreux contrôles préventifs aux abords du point initial de départ, à savoir Place d'Italie. C'est très important, les contrôles préventifs, parce que ça la permet déjà, dans un premier temps, de faire le premier tri, si je puis dire, et le premier check des personnes qui viendraient pour les mauvaises raisons à la manifestation. Et ça, c'est très, très important. Ensuite, écoutez, ça, c'est toujours difficile, et je vous le dis, c'est ce qui est vraiment le plus compliqué avec les manifestations, c'est la visibilité et le maintien de l'ordre, c'est jamais une science exacte. Je voulais juste vous donner un petit exemple. Alors, ça n'a rien à voir, mais hier, moi, j'étais au défilé du carnaval du Nouvel An chinois dans le quartier asiatique. Il y avait des milliers de personnes sur la voie publique. Ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu cette manifestation. Des milliers de personnes, avenue de Choisy, avenue d'Ivry jusqu'à Tolbiac. Il n'y a eu aucun incident. Cela veut dire quoi ? Même si ce n'est pas dans le cadre d'une manifestation, ça veut dire qu'on peut se regrouper sur la voie publique, on peut être présent en nombre et avoir un événement qui se passe bien. Donc c'est très important.
C'est très important sur le plan de la sécurité, vous avez entièrement, et sur le plan politique, bien Philippe sûr. Doucet, parce que bon, la stratégie est claire. S'il y a de la casse, s'il y a des violences, le gouvernement va dire, regardez.
Comme j'ai toujours dit, le droit de manifester est un élément politique essentiel et d'une certaine façon, empêcher, casser une manifestation parce qu'il y a des black blocs, parce qu'il y a des violents, tout ça, ça dessert le mouvement social.
Et les syndicats ont les moyens de...
Que les policiers puissent faire au mieux possible leur travail, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour protéger les manifestants, parce que plus une manifestation est passée... Moi, j'ai vu des amis, ils m'ont dit, la dernière fois, ils m'ont dit, une jeune maman, oh, j'ai mes deux enfants, je vais pas aller à la manif parce que je sais pas comment ça va tourner, cette affaire-là. Donc les gens, c'est normal, peuvent avoir peur de venir à une manifestation. La réussite d'une manifestation, plus elle est pacifiste, plus elle se passe bien, plus il y a de monde. Exactement. Donc on a intérêt que ça se passe très bien avec les forces de police, avec les services.
On le dit souvent, pour qu'une manifestation soit populaire, il faut aussi qu'elle soit pacifique.
Mais bien sûr.
Il y a tellement
les
de personnes.
Les gens n'aiment pas la violence.
Si les mouvements,
la majorité d'entre nous, on n'aime pas la violence.
Exactement. Si les mouvements se sont effrités, notamment les épisodes gilets jaunes au fil des semaines, hein, avec tous ces épisodes que l'on a connus, c'est aussi parce que il y avait le climat un petit peu anxiogène.
Mais là, il y a des choses quand même qui vont changer. C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui ne va pas céder sur l'essentiel, hein, sur le 64 ans, ce n'est plus du tout négociable. Vous avez dans les sondages toujours le même front de contestation, le mur même de contestation contre la réforme des retraites. Et vous avez peut-être des fissures dans le mur syndical, Arthur de Fatrigan, entre CFDT et CGT qui ne sont pas d'accord sur la suite du mouvement, entre des grandes journées ou des actions, ou une grève reconductible ou des actions plus ponctuelles. Qu'est-ce que ce cocktail peut donner ?
En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'il y a une stratégie du gouvernement ou un intérêt du gouvernement à ce que ça dégénère, mais quiconque a déjà fait une manifestation dans sa vie, c'est très bien que quand un État veut que ça dégénère, il le fait dégénérer. J'ai déjà vu des choses se passer où c'était fait en sorte que ça dégénère. Des policiers qui étaient déguisés en civil et qui se mettent de l'autre côté et qui poussent un peu, ça arrive. Donc si l'État veut, quoi, si le gouvernement veut le faire, il va le faire. Donc faut pas être naïf non plus. Ensuite, là, aujourd'hui, il y a des divergences. Je repars du point de vue des syndicats, il y a des divergences. Le front a l'air quand même assez solide en ce moment, quoi. Vous regardez au départ, les divergences étaient beaucoup plus affirmées. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la grande manifestation, plus les divergences sont... on dit oui, on n'est pas complètement d'accord, mais les mots employés ne sont pas les mêmes. On est un peu plus flou sur la suite. Donc, je pense qu'il va se déterminer, c'est, un, la mobilisation de demain. Moi, je pense que ça casse ou que ça casse pas, ça changera pas grand-chose du point de vue et de la mobilisation et du front syndical.
Mais je suis pas certain que ça change dans
l'opinion publique.
Oui, ça va changer.
L'opinion publique, je suis pas certain. Honnêtement, parce que encore une fois, vous avez Gérald Darmanin.
C'est des blocages qui vont perdurer dans le temps.
Oui, mais vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir d'autres points de vue que le point de vue officiel. Mais ça arrive aussi. Et donc, on peut très bien. Et puis, vous savez, maintenant.
Les faits sont têtus.
Les faits sont têtus, mais vous savez très bien aussi que, malheureusement, le réel échappe à beaucoup de personnes. Yeah. Et vous pouvez montrer une image en mettant une légende qui n'a rien à voir avec l'image, beaucoup de gens vont la croire. Et vu l'état d'esprit de Gérald Darmanin...
Vous accusez qui de manipulation, en fait ?
Je dis que la manipulation peut être des deux côtés, la manipulation servira plus le front syndical et les opposants que l'État.
À voir. Nicolas Lecossin est avec nous en direct et en duplex, qui est directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Monsieur Lecossin, moi je voudrais vous interroger sur les propos de Gérald Darmanin, pas tant sur la bordélisation du pays, mais sur le fait qu'il y aurait deux camps, celui du travail et finalement un gauchisme, paresse, bobo, en fait un droit à la paresse. Est-ce que c'est aussi manichéen que cela, selon vous ?
C'est un parti manichéen, effectivement. Dieu sait qu'on n'est pas toujours d'accord avec le gouvernement ici à l'IREF, mais ceux qui manifestent, vous l'avez dit sur le plateau, sont surtout ceux du public qui sont très, très peu concernés par la réforme des retraites. Deuxièmement, qui sont les vraies victimes, qui vont être les vraies victimes de ces manifestations, de ces blocages ? Ce sont les petits gens qui travaillent, des employés du privé, les petits entrepreneurs, les commerçants, qui doit faire du chiffre d'affaires et que personne ne va rembourser, que personne ne va payer, contrairement à ce que certaines mairies ont annoncé pour payer leurs employés. Donc, de ce point de vue, effectivement, M. Darmanin a raison.
Il a raison. Vous dites que ceux qui manifestent ne sont pas forcément le million de gens ou plus qui a été dans la rue et ceux qui seront dans la rue demain ne sont pas les premiers concernés par cette réforme des retraites ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, la vidéo de M. Guérini, du ministre Guérini, vous savez, qui a circulé ce week-end, qui a fait beaucoup de bruit, M. Guérini le dit clairement. Il reconnaît que la fonction publique est très, très peu touchée. Il faut travailler un peu plus. Mais en fait, le régime spécial des fonctionnaires reste le même. Vous savez que les régimes spéciales des fonctionnaires est vraiment un cas particulier. La pension des fonctionnaires est payée par l'État, donc par les contribuables. Les fonctionnaires n'ont même pas de caisse de retraite. Donc, et ça va continuer. Donc, ce n'est pas, ils ne sont pas du tout concernés par le fait de payer plus, d'avoir de cotiser plus. C'est complètement faux. Pareil pour ceux qui dépendent des régimes spéciaux auxquels SNCF, EDF, RATP, auxquels on va appliquer ce qu'on appelle la clause du grand-père. C'est-à-dire ceux qui vont commencer à travailler l'année prochaine, qui seront concernés dans 43 ans. Donc, ça fait quand même longtemps. Bah,
c'est intéressant. Nicolas Lecossin, restez avec nous. Je vais faire réagir Eric de Ritmaten. Oui. C'est le cas. Les premiers manifestants sont les moins concernés par la réforme des retraites.
Je le disais il y a encore 5 minutes, c'est toujours les mêmes entreprises. SNCF, RATP, Fonction publique, demain un peu Air France, alors qu'ils sont loin d'être concernés. Mais si vous voulez, moi, je n'oublie pas une chose. On parle de retraite. La capitalisation, elle existe en partie pour les fonctionnaires. Hein, ça s'appelle la RAF, la RAF, retraite additionnelle des fonctionnaires.
Vous avez aussi
la Préfond, tout le monde connaît la Préfond, la Caisse Prévoyance Fonction Publique. Ça, eux, ils ont négocié leur propre système. Et dedans, vous avez quatre syndicats, CFDT, CFTC, CGC, Force Ouvrière, mais pas la CGT. Eux ont créé le système de capitalisation. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, alors bien sûr, je sais bien que c'est le report de l'âge légal qui est dénoncé. Hein, ça, c'est quand même aussi un autre problème. Ça, c'est vrai. Mais il n'empêche, ceux qui sont vraiment aujourd'hui concernés, à la limite, c'est dans le privé.
Ce sont les
femmes
chose.
Qui... Mais bien n'oubliez sûr. Pas que les femmes...
Vous avez parlé de la capitalisation. Expliquons ça, parce qu'introduire dans la réforme des retraites une dose de capitalisation, c'est ce qui est proposé par certains, notamment à droite, David Lisnard. C'est un sujet tabou. Et pourquoi l'est-il?
C'est tabou parce que le capital est mal vu en France. Hein. C'est les relents de la Révolution française. Dès que vous mettez de l'argent de côté, vous êtes considéré comme riche et c'est mal vu. Mais la capitalisation, c'est j'ai 20 ans, j'ai envie de mettre 200, 300 euros par mois, si je peux, bien sûr. Et donc, vous allez vous faire un petit capital, petit à petit. Alors, ça remonte à il y a loin. Rappelez-vous, c'est maintenant loin, le PER Balladur, vous rappelez, le plan d'épargne retraite. À peine avait-il été créé, qu'il avait été modifié, remplacé. À l'époque, c'était Pierre Bérégovoy. Il y a eu tellement de moutures différentes qu'on n'y comprenait plus rien. Et puis, ce sont les personnes les plus âgées qui capitalisaient, non pas les jeunes. Alors que théoriquement, c'est aujourd'hui qu'on devrait inciter les jeunes à mettre un peu d'argent de côté. Et Lisnard, le maire de Cannes...
Vous allez inciter les jeunes à mettre un peu d'argent de côté. La plupart qui sont dans la rue, ils disent qu'ils ne veulent plus travailler déjà.
Vous savez pourquoi? Parce que sur 100 euros... Sur 100 euros...
Vous pouvez mettre 10 euros de côté.
Sur 100 euros... C'est l'État qui décide à votre place de vous prendre les fameuses cotisations sociales qui ont toujours été jugées trop élevées. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est surtout les entreprises qui payent le plus de cotisations sociales. Et le salarié en paye beaucoup, mais moins. Donc l'entreprise joue un rôle important. Mais l'idée, ça serait de pouvoir choisir de mettre l'argent où on le veut. Alors Lisnard dit 68% irait dans la retraite par répartition existante actuelle pour s'assurer un revenu minimum de 1200 euros le moment de la retraite. Et le reste... on choisirait de le mettre sur un plan privé.
Philippe Doucet monte sur ses grands chevaux. Tabou,
c'est pas ça, le sujet.
Capital, vous avez dit capital. Il a dit capital.
Le sujet, c'est pas ça, Eric. C'est que derrière, je sais que c'est une vieille lune de la droite française qui espère faire un système américain en France, mais sauf que toute notre histoire, tout ce que nous sommes, est contre ça. Et puis par ailleurs, vous avez dit juste...
C'est-à-dire quoi?
C'est entre 200 et 300 euros par mois. Mais qui est aujourd'hui dans ce pays... dans les classes populaires, les moyens de mettre 200 ou 300 euros par mois. Mais ça n'existe pas. Alors, donc que M. Lisnard ou les retraités de Cannes puissent le faire, mais on est ravis pour eux, il n'y a pas de problème. Ils le font, ils ont des assurances-vie, ils achètent des appartements et ça. Il n'y a pas de problème. Mais la réalité aujourd'hui de 30% au moins des Français qui ont des fins de mois compliquées, ça n'existe pas.
Non, mais Philippe, c'est un film qui n'existe pas. Philippe Doucet, c'est pas complètement ça, parce que le but, c'est pas d'épargner en plus. C'est de dire, vous avez dans votre salaire, vous avez tant qui part en retraite. Donc, au lieu de faire tout en répartition, vous allez faire une partie répartition, une moitié capitalisation. Donc, c'est pas un ajout. Et par contre, le point de départ, c'est que quand ça a été pensé, le système de retraite par répartition, 45, il y avait 6 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour un retraité. C'est-à-dire que le système de répartition, aujourd'hui, ne peut pas fonctionner sur le long terme. Bah, c'est tout.
Vraiment, ça fait 50 ans qu'on nous dit, depuis qu'il met en place, que le truc peut pas fonctionner.
Et la preuve,
qu'on ait des ajustements. On a bien fait, nous, la réforme Touraine. Donc, tout le monde sait très bien
Philippe, tout le monde sait que ce sera la dernière, réforme.
Non, ça sera pas la dernière réforme. Parce que, tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y a une réforme des retraites, parce que le pays bouge par rapport à ça.
Mais non, parce que vous avez moins de natalité et plus de retraités, c'est tout.
Les jeunes dans la rue, c'est une vraie question. On les a vus, ils y étaient déjà la fois dernière. Une question à ce sujet aussi, Nicolas Lecossin. Vous entendez cette cette partie de la jeunesse qui vous dit « mais nous, on a une autre philosophie, une autre approche, et en particulier depuis la crise du Covid, on ne veut plus travailler comme ça, on veut du temps pour nos loisirs, et d'ailleurs pour ce que l'on veut ». Est-ce qu'il faut l'entendre aussi, cette nouvelle approche, tout simplement ?
Ah, justement, moi, je suis complètement effaré par le fait de voir les jeunes manifester contre la réforme des retraites ou autre. Je ne sais pas, moi, à leur âge, je travaillais, je faisais des études. Et on voit même des lycéens qui font ça. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent hein, de cette réforme des retraites. Donc, c'est un signe vraiment qu'il y a un problème dans ce pays. D'autant plus que, sincèrement, est-ce qu'on sait ce qui va se passer quand ils auront l'âge de la retraite, dans 40, 50 ans? On ne peut pas le savoir. L'espérance de vie sera peut-être de 110 ans. On ne sait pas ce que l'innovation va nous apporter. Donc, c'est complètement stupide, c'est grotesque. Mais j'aimerais revenir sur la capitalisation, parce qu'en France, on parle beaucoup d'inégalité. Toute la gauche a la bouche le mot inégalité. Mais il existe une énorme inégalité, c'est que les fonctionnaires et les sénateurs ont droit à la capitalisation et ceux du privé n'ont pas droit à la capitalisation. Ça c'est absolument extraordinaire. Il faut le rappeler,
oui. Vous l'avez dit. Nicolas Luxem, j'entends. Là, vous pointez les inégalités. Je voudrais vous remercier parce qu'il nous reste peu de temps. Je vais faire réagir à vos propos sur la jeunesse dans la rue nos invités. On va marquer une pause d'un mot, Pierre Gentier, avant la pause.
Moi, je suis un peu surpris, c'est-à-dire que je pense qu'il faut peut-être arrêter avec les anathèmes, c'est-à-dire que les jeunes, en l'occurrence, quand ils manifestent, c'est pas stupide, ils ont le droit d'avoir un avis politique et de se préoccuper. C'est vrai que c'est loin, dans 40-50 ans. Et pourquoi dire que c'est stupide sous prétexte qu'ils sont jeunes et que ça les concerne pas? Ils ont un avis politique, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ils ont le droit de manifester. Moi, je n'entends pas cet argument.
On peut pas dire qu'il y a de l'anomie politique, que les gens s'intéressent à rien, et quand ils s'intéressent, leur reprocher qu'ils s'intéressent à quelque chose.
Mais c'est sur le discours. Vous avez entendu certains qui disent
certains, plus tout le monde n'a pas. La jeunesse, ou ça veut pas dire que tout le monde pense la même chose. La jeunesse est très diverse.
La pause et on se retrouve sur ce sujet et puis nous suivrons également la conférence de presse de la maman de Lucas. Ce sera dans quelques instants à 13h. Restez avec nous, ces mots sont importants, déchirants et aussi peut-être ça peut constituer aussi un électrochoc salvateur pour certains. Pousser ceux qui sont dans cette situation terrible à parler, à dénoncer les harceleurs, en particulier à l'école. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est une affaire tragique, dramatique. Dans quelques instants, nous écouterons la prise de parole de la maman de Lucas, Séverine, meurtrie, dévastée par la disparition de son fils, de son bébé, comme elle l'appelle. Elle va sortir du silence. Nous allons l'écouter, mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, Simon.
Rebonjour Sonia et bonjour à tous. À la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, c'est le baptême du feu pour les députés. Le texte est débattu en ce moment même en commission à l'Assemblée nationale. Et on va justement aller sur place retrouver à l'Assemblée Élodie Huchard et Laura Lestrade. Bonjour chère Élodie, l'examen du texte a donc débuté ce matin avec notamment 6000 amendements déposés par la NUPES.
Oui, et d'abord, le début des discussions, justement, a porté plutôt sur la forme. Est-ce qu'il faut changer de salle? Parce qu'évidemment, les députés étaient assez nombreux. Et puis, certains députés, notamment de la France Insoumise, qui ne siègent pas normalement dans cette commission, étaient présents. Certes, ils en ont le droit, mais forcément, les places viennent à manquer. Et puis, vous l'avez dit, Simon, 5693 amendements à étudier en 27 heures. Cela fait, en théorie...
Direct, Élodie, puisque la mère de Lucas s'exprime. Tout de suite, on l'écoute.
Bonjour à tous. La maman du cas qui est ici présente pour la première fois, entre guillemets, devant la presse, a pris la décision de vous parler aujourd'hui, compte tenu des nombreuses sollicitations dont elle a été l'objet, de manière directe ou indirecte, pression médiatique particulièrement difficile qui s'ajoute à la perte tragique de son enfant, Lucas, qui a décidé de mettre fin à ses jours le 7 janvier dernier. À ce stade, je tiens tout de suite à cadrer les choses. Il n'y aura aucune réponse sur le fond du dossier pénal. Vous savez, tout comme moi, que l'enquête a été clôturée, que les quatre auteurs présumés mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants d'Épinal. On sait qu'un procès tiendra courant du printemps. On n'en sait pas plus. Calme et sérénité sont les préalables nécessaires à une décision judiciaire qui ne peut certainement pas se rendre dans l'émotion ou dans le chaos, parce que c'est un peu l'effet que ça fait dans la vie de la maman de Lucas. Une maman qui attend évidemment une réponse judiciaire, sachant que l'étude du dossier et le débat qui aura lieu dans l'enceinte du tribunal pour enfants permettra de répondre à un certain nombre de questions, et notamment quant aux faits pour lesquels sont poursuivis les auteurs mineurs, c'est-à-dire du harcèlement scolaire qui a donné lieu à un suicide de Lucas.
sont des peines encourues de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, étant précisé que les auteurs étant tous mineurs, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'excuse de minorité, de sorte que les peines sont automatiquement divisées par deux au titre des peines encourues. Je tiens aussi à préciser que compte tenu de l'âge des mineurs au moment des faits pour certains, certains ne relèveront que de sanctions éducatives et non pas pénales. Et là encore, ce sera un débat qui se tiendra devant le tribunal pour enfants, puisqu'effectivement, les tribunes de la presse et la rue ne sont certainement pas le lieu d'exercice de la justice. Aujourd'hui, la famille, elle a un souhait, c'est de pouvoir, dans l'attente de ce procès, honorer la mémoire de son fils, tragiquement disparu. Et ça se fera notamment au travers d'une marche blanche qui a été annoncée et qui est organisée à Épinal le 5 février prochain, ce dimanche, à 14h, place Foch. Il y a une demande qui est faite, c'est du calme et du respect. Ça n'est pas du voyeurisme, ça n'est aucun signe distinctif, d'aucune sorte qu'il se soit, contre le harcèlement au titre du mouvement LGBT. C'est une neutralité bienveillante, puisqu'il n'est pas question de récupérer la mort de Lucas, il est question d'honorer sa mémoire. Et ça, la maman y tient très particulièrement. Le temps judiciaire suivra, dans l'enceinte judiciaire, et le temps du combat contre le harcèlement et toutes les formes de discrimination pour la liberté d'être, de vivre et d'être soi tout simplement viendra aussi dans un deuxième temps au travers d'actions que nous allons construire, d'informations, de formations et de prévention et qui se veulent utiles pour que cette mort ne soit pas vaine et pour donner du sens à ce qui est absolument insupportable. Voilà, alors, quelques questions. N'insistez pas sur les éléments du dossier pénal, il n'y a aucune réponse qui vous sera donnée à ce stade, encore une fois. Il va falloir que ce débat se joue loyalement dans l'enceinte judiciaire, comme ça doit être le cas, et à huis clos, puisqu'on est en présence d'une victime, et on est aussi en présence d'auteurs qui sont mineurs. Il n'est pas question de les jeter en pâture à des débats qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc quelques questions, et je vous demande de respecter la maman de Lucas, et surtout voilà, de ne pas l'assommer. C'est suffisamment difficile, et j'insiste, si elle est là aujourd'hui devant vous, c'est parce que la pression a été telle qu'on espère que cette réponse que vous aurez en direct, vous l'aurez une fois pour toutes jusqu'au procès. Il n'y aura pas d'autre prise de parole dans l'intervalle, ce n'est pas la peine de nous contacter. Il n'y aura pas d'autre prise de parole, on n'est pas là pour jouer ou donner en spectacle. Elle traverse un drame absolu, maintenant elle a besoin de pleurer son fils dignement.
Merci. Madame, vous avez dit que tout n'a pas été fait pour sauver votre fils. Aujourd'hui, pour vous, ce drame, il aurait pu être évité.
Je pense, oui. Si tout avait été fait correctement, oui. Après, on ne sait pas, on verra ce que ça va donner, les conclusions de l'enquête.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils ?
Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et que personne n'a pu le sauver, en fait.
Le fait qu'il y ait quatre jeunes qui étaient arrêtés, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que dans le drame que vous traversez, ça apporte peut-être un petit soulagement ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Il n'y a pas que les quatre jeunes, en fait. Donc, sur le combat, ça va être pour votre... Enfin, il n'y a pas que les quatre jeunes, parce que... Il n'y a pas que eux, en fait. Il n'y a pas que eux. Mais ça, ça sera la justice qui va le décider. Donc, moi, j'en pense rien. Pour le moment, je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse, et puis... Et voilà, que justice soit faite et rendue pour lui.
Aujourd'hui, c'est la colère qui domine.
La colère, mais elle est intérieure. Donc voilà, moi je veux juste être tranquille, je veux juste pouvoir. Ça fait 3 semaines que. Ça fait 3 semaines et voilà, on réalise toujours pas. Et la colère, elle va être mise à bon escient, elle va être. On va mener le combat derrière et. On va pas s'en prendre à qui que ce soit, on va pas pointer qui que ce soit, ça c'est clair, parce qu'on a... Ben voilà, on est quand même assez mature, hein. Enfin, on a autre chose, on a... Lucas n'aurait pas voulu ça.
Et qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous aimeriez dire aux harceleurs présumés de votre fils ou peut-être à leurs parents ?
J'ai rien à leur dire.
Tu parles même plus généralement sur...
Sur les harceleurs en général ?
arrêtez, mettez-vous à la place derrière des harcelés et réfléchissez au mal que ça, fait, ça peut faire. Même une parole et tout, ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes. Et il y a d'autres manières de parler, de communiquer. Enfin voilà, on est libre, on est tous libres en fait. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on est tous libres.
Vous avez déclaré à nos collègues de Rochematin que tout n'a pas été fait pour protéger votre enfant. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui, vous, à la direction de...
J'en veux à personne pour le moment. Enfin, non. Je suis pas dans cette optique-là. Donc, moi, je vous dis, c'est la justice qui fait le travail derrière. Et après, on mènera nos actions à côté. Et, tout dans la légalité, en temps et en heure voulue.
Vous l'avez dit dès le départ, c'était évident pour vous que c'était à cause du harcèlement. Là, ça semble du coup se confirmer.
Pour moi, oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu.
C'est compliqué. Pour moi, oui, c'est le harcèlement qui a été l'élément déclencheur. C'est ça, et après, on verra.
Lucas se plaignait au quotidien de harcèlement.
On en reparlera de tout ça. C'est pas le mieux.
Vous avez dit que vous avez émis plusieurs signaux. Est-ce que pour vous, le corps enseignant, l'établissement scolaire a fait suffisamment?
J'aurais pu faire plus.
Il aurait dû faire plus.
Oui. Ah oui, clairement. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi.
Qu'est-ce que vous auriez attendu, justement, de l'éducation nationale dans les premiers appels que vous aviez lancés au début?
Des mesures disciplinaires auprès de ses élèves.
Plus tôt?
Ah, bien plus tôt, oui. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
Le fait d'organiser une marche blanche, vous pouvez nous dire pourquoi
Pour honorer la mémoire de mon fils. Pour lui rendre le plus beau des hommages, parce que c'était un super petit garçon en fait. Et voilà, il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Et voilà, je veux pas qu'on l'oublie. Et puis voilà, c'est notre manière à nous de le maintenir en vie.
Ce harcèlement a été long, constant?
Du moment où il y a du harcèlement, de toute façon, du moment où ça blesse quelqu'un, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à d'autres enfants qui subissent ça?
Parlez-en, libérez-vous, n'ayez peur de rien, n'ayez pas peur des représailles. Il y a toujours une écoute, il y a toujours quelqu'un à qui on peut parler, que ce soit au collège, dans la famille, les amis, peu importe où qu'on aille, il y a toujours une oreille attentive et il y a des moyens pour les aider qui ne sont pas forcément mis en avant. Et il y a les numéros, il y a les plateformes, il y a des associations, il y a beaucoup de choses. Et faites-le. Vraiment, faites-le. N'ayez pas peur de vous libérer, surtout. Mais...
Vous souhaitez intervenir dans les établissements pour aussi...
Ça sera un autre combat, mais oui.
Ça va devenir votre combat, là, contre le harcèlement. Qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui?
Des interventions dans... partout où il y a des enfants, enfin, que ce soit de la maternelle, partout. Si on peut aller partout, on le fera partout. C'est pas distribuer des gourdes, c'est pas distribuer des flyers, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas mettre des affiches dans les établissements, c'est vraiment leur parler, les prévenir, les conseiller, leur donner des outils pour... C'est... Voilà, on veut les aider, tout ce qu'on pourra faire, on le fera.
Donc au collège Lucas, il n'y avait pas eu d'intervention de ce type?
J'en ai pas entendu parler.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes retrouvé un peu seul avec la parole de votre fils qui a parlé, qui vous a parlé, qui s'est confié et...
Complètement. Complètement.
Vous aviez envisagé de changer d'établissement?
C'était pas mon fils de partir. C'est pas au harceler de partir, c'est au harceleur de partir. Donc.
Aujourd'hui, vous pensez quoi du plan contre le harcèlement scolaire?
Il n'est pas au point. il est clairement pas au point, la preuve. Parce que c'est mon fils, et c'est des milliers d'autres encore. J'ai reçu énormément de messages, on en voit de partout, là, en ce moment. C'est pas assez, c'est pas au point. Il n'y a pas assez de personnes formées, Il faut des personnes formées dans chaque établissement, il en faut un minimum, il en faut vraiment partout, en fait. Il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider, au moins les soutenir.
C'est quoi la sensation que vous avez eue? C'était au moment des signalements, c'était qu'on ne prenait pas au sérieux, qu'on ne savait pas quoi faire? C'était une incompétence ou c'était une volonté de ne pas voir?
Je pense que il y avait des visières.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice? On parle de 4 adolescents de 13 ans. 13 ans, c'est très jeune.
Est-ce qu'ils reconnaissent déjà et que ça les fasse réfléchir, enfin, voilà, qu'ils ne recommencent pas. Vraiment qu'ils ne recommencent pas. Et ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Faut juste qu'ils, je veux qu'ils réagissent à ce qu'ils ont fait. Je leur veux pas de mal, je veux pas qu'ils... Enfin, voilà, ça reste des enfants. Ils ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais c'était récurrent, donc juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, mais c'est des enfants. Malheureusement, ce ne sont que des enfants.
On voit à leur tour ces jeunes justement menacés également sur les réseaux sociaux. Certaines personnes menacent de
s'en prendre. J'en ai entendu parler.
Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à cela?
Ça ne sert à rien de toute façon. C'est nourrir la haine. Puis je veux pas qu'ils soient victimes non plus de quoi que ce soit. Ça ne sert à rien en fait. La justice est là pour faire son travail. Personne n'a à régler les comptes de qui que ce soit. Il n'y a pas de compte à régler en fait. La justice, elle fait ce qu'elle a à faire. Et non, nous, on veut pas ça. On le veut pas, ça. On veut pas que les enfants soient pris à partie. On veut pas qu'ils soient chopés dans la rue ou quoi que ce soit. Certainement pas. C'est pour ça aussi qu'on n'a jamais parlé à qui que ce soit. On vous a jamais parlé. Qu'on n'a jamais cité ni le nom du collège, ni quoi que ce soit. Parce que justement, on veut quand même, malgré ce qui s'est passé, on veut quand même les protéger. Ça reste des gamins.
Contre le harcèlement et l'homophobie, on parle aussi beaucoup de l'éducation, les parents. Les enfants, ils ont 13 ans, c'est aussi le rôle des parents.
Après, c'est aux parents aussi de leur apprendre que tout le monde est libre, que chacun fait ce qu'il veut. Enfin, l'acceptation de tout le monde, en fait. Parce que si on commence à passer par la dénigration de chaque enfant, c'est pas possible. Un enfant reste un enfant. Et un être humain, c'est un être humain. Ils n'ont pas le droit de dénigrer comme ça. Il faut leur apprendre l'acceptation de tous et il faut que ça rentre vraiment dans les têtes des gens, que tout le monde est libre en fait. Que ce soit peu importe qui on est, comme on est, il faut que tout le monde l'accepte.
Cette détresse de la part de votre fils, vous la ressentiez, vous avez pu l'imaginer ou jamais vous auriez pu imaginer?
J'aurais pas pensé qu'il aurait fait.
Ouais, c'est bon.
Encore une question, s'il vous plaît, puis on va terminer.
Est-ce que le fait qu'il soit appelé à être traduit devant la justice vous suffit en espérant, enfin, c'est ce que vous dites, vous espérez que ça les fasse réfléchir, ou est-ce qu'il faut une peine? Et si oui, qu'est-ce que vous érigez comme peine pour un adulte traduit?
J'imagine aucune peine pour un adulte, c'est un gamin, donc je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommencent pas, et puis. Qui mènent des actions peut-être derrière, peut-être que ça va les faire évoluer, et qui mènent des actions derrière. Le jour où on fera quand on ira faire des interventions et tout, voilà, qu'ils viennent avec nous. Enfin, ça pourrait être bien qu'ils interviennent avec nous en disant ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Voilà, il y a eu ça derrière et on le regrette. Voilà, qu'ils interviennent avec nous. On aimerait qu'ils fassent partie des actions qu'on va mener pour prévenir de ce qui peut se passer pour eux et ce qui peut se passer pour les harceler.
Vous leur tournez un peu la main, finalement, ce qui est compte tenu du contexte.
Après, ils ont l'âge de Lucas.
C'est fort ce que vous dites, c'est que vous leur en voulez pas, quoi.
Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Voilà, mon fils, il est plus là, quoi. Parce qu'ils ont pas été cool, ils étaient méchants avec lui.
Et voilà, mais si je pouvais aider les autres avec leur ressenti à eux, ça serait une victoire de plus, un pas en avant pour faire réfléchir tout le monde, en fait.
Ce sera le mot de la fin ?
Oui,
je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à vous.
Merci,
merci
madame.
Et bon courage.
Merci beaucoup. Ça a toujours existé. Ça l'a fait.
Beaucoup d'émotions après cette prise de parole. Et forcément, c'est une maman qui fait face au pire, à la disparition et au suicide de son fils, qui affirme que l'école aurait dû faire davantage, qui fait confiance, en tous les cas, elle demande à la justice de faire son travail, qui n'en veut pas, en tous les cas, elle ne demande pas, n'exige pas de peine particulière face au harceleur présumé de son fils Lucas. Avant d'aller sur les aspects judiciaires, sociétaux, politiques, il y a l'émotion, Caroline Pilas, qui est énorme. Et cette phrase de la maman qui a dit « Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver ».
C'est un témoignage poignant qui m'a fendu le cœur, comme à nous tous, évidemment. Le rôle d'un parent, c'est de protéger, de préserver au maximum son enfant. C'est un drame innommable ce qui s'est passé. Un jeune garçon de 13 ans qui se suicide parce qu'il est la victime d'individus qui n'ont pas conscience ou ne veulent pas avoir conscience de cette différence. Quoi qu'il en soit, c'est tellement facile de s'en prendre à la différence d'autrui. On est tous différents par principe. Et évidemment que ça me touche en tant qu'être humain, mais ça me touche parce que dans mes conférences bénévoles sur le handicap, j'ai énormément de cas aussi comme cela. Donc il va falloir vraiment travailler sur ce sujet, mais en amont, alors est-ce qu'il y a une carence éducative ? On le verra, il faut évidemment que la justice soit transparente sur cette affaire. Est-ce que l'école était au courant ? Parce que cette maman est traumatisée. Parfois elle disait tout et son contraire et on ne va pas lui en vouloir. Évidemment, elle vient de perdre son garçon. Mais je pense que beaucoup savaient ce qu'il se passait et dans le lot, quand on sait qu'ils étaient quatre et qu'il y avait deux filles, pardonnez-moi, mais quand on s'en prend à quelqu'un, quand on le brime, quand on le blesse, quand on le tape régulièrement, c'est de l'amusement. Mais derrière, pour moi, il y a un manque d'empathie, d'altruisme qui est criant. Évidemment. Donc est-ce de la sociopathie ? Je ne sais pas. Mais en attendant, ce ne sont pas tous les jeunes qui se conduisent comme ça. Et heureusement, sans compter ce qu'a vécu Lucas sur les réseaux sociaux.
Ouais, il y a beaucoup de force chez cette mère parce qu'il faut pouvoir d'abord ainsi tenir un tel discours, faire attention à ce qui est dit parce qu'il y a, comme l'a précisé son avocate au tout début, un procès qui va arriver au printemps. Et là, maître, il va falloir établir si véritablement le harcèlement et les faits de harcèlement ont conduit justement à cette fin terrible, tragique qui est celle du suicide. Nous parlons d'adolescents, 13 ans, d'adolescents qui ont proféré, semble-t-il, à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre d'un camarade.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, il n'y a pas de présomption de non-discernement. Leur responsabilité pénale peut être mise en jeu. Ensuite, ça va être tout le travail du juge des enfants d'établir si ces quatre adolescents avaient bien conscience de ce qu'ils faisaient. Et qu'ils avaient bien conscience, évidemment, que ces faits de harcèlement répétés pouvaient conduire au suicide. Notons qu'aujourd'hui, c'est 10 ans d'emprisonnement. Mais comme ça m'a été très bien rappelé, effectivement, tout à l'heure, cette peine n'était pas aussi élevée. Elle était, je crois, de 7 ans. Ouais. Elle a été portée à 10. Il faut noter que c'est une loi de février 2022, donc c'est assez récent. Maintenant, voilà, c'est au juge de regarder les circonstances.
Mais là, nous sommes malheureusement en aval, et il y a tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire une chaîne, non pas de responsabilité, mais des maillons, en réalité, Jérôme Jiménez. Il y a l'école, il y a tous les capteurs qui auraient dû, à un moment ou un autre, et aussi, j'allais dire, les forces de police, au cas où, évidemment, quelqu'un aurait pu porter plainte. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des services dédiés justement pour ce type de harcèlement ?
Alors oui, pour vous répondre, il y a un service dédié qui s'appelle la mission prévention et communication. Donc ce sont des services de police qui ont vocation et qui sont formés à aller dans les écoles en fonction des partenariats et des conventions qui sont signées. On y fait de la prévention sur le harcèlement scolaire, sur le racket, sur les réseaux sociaux, sur les drogues. Mais ces services, par manque d'effectifs aujourd'hui, ne sont plus aussi nombreux que cela pourrait se faire. Et au final, c'est dommage parce qu'il y avait un vrai rôle par rapport à ça. Un policier expérimenté qui se tournait, si je puis dire, vers ces jeunes pour expliquer un petit peu tous ces sujets, ça avait un vrai sens. Mais je ne vous le cache pas, aujourd'hui, dans Paris, sans parler de dire que c'est une priorité, On fait aussi comme l'on peut avec les effectifs. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la présence sur la voie publique, oui, les brigades de police secours et le traitement des affaires judiciaires. Je vous précise aussi également une chose, c'est que le harcèlement scolaire, c'est un élève sur 10 concerné en France. Donc c'est peut-être aussi dans ce sens que la loi du 24 février a été promulguée. Et un dernier élément, parce que cette dame en a parlé, ça serait important de rappeler les numéros pour venir en aide aux enfants qui sont mis en ligne, à savoir le 119, le 30-18 et le 30-20 pour tout ce qui est lié aux agressions, harcèlement, aux violences pour les enfants.
C'est terrible. Vraiment, on est bouleversé. Je trouve que ces propos, on n'a pas à les juger, mais je trouve que ces contenus, il y a marqué, imprimé, imbibé d'une dignité incroyable, parce que de dire qu'elle n'en... D'ailleurs, elle n'arrive pas, Arthur de Vatrigan lui pose, la question lui est posée, est-ce que vous en voulez à ces adolescents, qu'elle appelle des enfants, elle dit, ce ne sont que des enfants. Et quand la question lui est posée, mais est-ce qu'il faut leur en vouloir? Elle n'arrive pas à dire non quand même. Évidemment, son fils a disparu. Donc, mon Dieu, quelle situation.
Oui, c'est touchant. Et cette dame est très solide parce que se retrouver face à tant de micros, ouais, des questions parfois inopportunes, comme la deuxième question qui était un peu... Voilà, bref. Faut être solide et surtout les propos mesurés. On sait que dans l'émotion, ça peut vite partir. Là, c'est pas le cas. Et dans le message qu'elle donnait, de dire que il faut respecter la personne qu'on rencontre, et c'est parce que son fils a pas été respecté que ça s'est terminé comme ça. Elle montre l'exemple en parlant des harceleurs, en disant que ce sont des gamins, des enfants. Mais, donc en partant, ouais, du principe qu'ils sont peut-être aussi, ils n'ont pas forcément pris conscience de tout ça, et je crois que même à la fin, elle expliquait qu'elle aimerait bien qu'elle les accompagne dans ses projets futurs, je crois, justement, de lutte contre le harcèlement, pour expliquer comment on bascule là-dessus. Donc c'est vrai que le message est fort.
Mais sur un autre, plan, elle est d'une fermeté, là, parce que les mots sur l'école sont sans appel pour elle. Elle estime, et ça c'est encore à la justice de montrer, parce que ce serait d'une gravité sans nom, qu'il y aurait eu des lacunes, que l'école aurait dû m'y faire. Et là, c'est un maillon, alors là, Philippe, essentiel, si ce n'est vraiment le maillon fondamental quand il y a ce genre de harcèlement.
Oui, parce que j'ai vécu, toute chose agréable par ailleurs, une situation à Argenteuil avec la mort d'une jeune fille, Alisha, autour, un peu plus âgée, autour d'une relation amoureuse. Ce qui m'avait déjà frappé, c'est la dignité des parents en règle générale, le non-appel à la vengeance, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, ce qui est évoqué. Mmh. Et puis effectivement, on voit bien que c'est autour de l'école que les choses se passent, parce que les parents, peut-être à tort, mais mesurer comment... les réseaux sociaux, c'est une génération, et c'est pas obligatoirement une génération des parents. Donc comment cet univers des réseaux sociaux fonctionne à l'école,
bon, là, il faut leur enseigner l'empathie, il faut leur enseigner l'existence de l'autre, il faut leur enseigner le respect.
Non, c'est pas les réseaux sociaux, c'est trop facile. L'attention, manifestement, on verra. Mais ce qu'elle a dit au début, c'est qu'il y a vu, elle avait elle-même interpellé, enfin, deux fois la structure scolaire, à voir comment, et que ça n'avait pas l'air d'avoir trop bougé. Et je lisais là pendant son interview le papier du Parisien, je voulais être sûr de ce que je voulais vous dire, c'est que a priori l'éducation nationale trouvait que ça s'était amélioré, donc ça veut dire qu'ils avaient tiré cette affaire là et que ça s'était amélioré au moment
du jeune garçon. On va marquer une pause, on va continuer à en parler sur ce sujet, sur l'actualité. D'abord, quand on dit moquerie et harcèlement, moquerie c'est pas la même chose que harcèlement, oui. Donc c'est vraiment des faits supposés de harcèlement, et c'est sûr, semble-t-il, aussi une orientation sexuelle, ce jeune garçon.
La question de l'homophobie dans
ce
pays, on a quand même un sujet, même chez les jeunes, paradoxalement. Alors que
je vais juste terminer cette phrase, et aussi ce qu'elle dit, et qui peut paraître pour certains incompréhensible, ou pour d'autres être le signe d'une grande sagesse, c'est-à-dire qu'elle ne leur en veut pas. En tout cas,
elle n'appelle pas la vengeance.
Et ça, c'est quand même...
C'est pour ça que je trouve que c'est fort, parce qu'il y a de la dignité dans
grande
un contexte...
Grande force et courage de la part de cette femme.
Hein. Quand on perd son enfant,
et on se retrouve, disait,
on peut
on
avoir
va se
envie
retrouver
de,
sur ce sujet et
de vengeance.
Hein. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous réécouterons les mots forts, déchirants, pleins d'émotions de la maman de Lucas. Nous serons sur place avec notre journaliste Jeanne Cancard à Épinal. Mais d'abord, les titres avec vous, Audrey Berthaud.
Appel israélien et palestinien au calme et à la désescalade. Le secrétaire d'État américain est attendu cet après-midi à Jérusalem. Ce matin, il était en Égypte. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. le Covid. Alors qu'en France, plusieurs règles sanitaires vont s'assouplir ou disparaître à partir du 1er février, c'est-à-dire mercredi, l'OMS a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximale sur la pandémie de Covid, 3 ans jour pour jour après avoir déclaré la maladie en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale. 23% des Français pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer. C'est ce que révèle le baromètre de l'Institut National du Cancer. Selon ce baromètre, une partie de la population sous-estime totalement le lien entre le tabac, l'alcool et le cancer, alors que ce sont la première et la deuxième cause de cancer en France.
Les mots déchirants de cette maman qui fait face au pire, à la disparition et au suicide de son fils Lucas, une onde de choc dans le pays, puis beaucoup d'interrogations et de remises en cause. Nous allons écouter dans quelques instants Séverine, cette maman, mais tout d'abord, nous sommes sur place à Épinal avec vous, Jeanne Cancard. Que faut-il retenir de cette prise de parole, Jeanne ?
Bien, c'est une prise de parole forcément empreinte d'émotion. Cette maman qui s'exprimait pour la première fois devant les caméras aujourd'hui. Cette maman, elle appelle au calme et à la sérénité. Elle a aussi, lors de cette conférence de presse, pointé du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire. Ils auraient dû faire quelque chose, ils auraient pu faire quelque chose. Cette maman qui jamais, nous a-t-elle dit, n'aurait pu imaginer que son fils passe à l'acte. Et le moment aussi très fort qu'on retient de cette conférence, eh bien, c'est que cette maman, elle nous dit aussi eh bien que ce sont des enfants. Les harceleurs de son fils sont des enfants, ils ont le même âge que Lucas. Ils ont 13 ans, 2 filles, 2 garçons qui vont être jugés courant du printemps prochain. Ce qu'on retient, c'est ce qu'elle a un petit peu tendu la main finalement au harceleur de son fils, puisqu'elle a dit « Moi maintenant, je veux pas que la mort de Lucas soit vaine. Je veux mener des actions contre le harcèlement scolaire, contre l'homophobie. Peut-être qu'un jour, je pourrai intervenir dans les établissements scolaires avec les harceleurs de mon fils pour qu'eux aussi soient acteurs maintenant et fassent en sorte que plus jamais une autre tragédie ne puisse se reproduire ici. »
Merci beaucoup, Jeanne. Effectivement, vous avez souligné ce qui a été dit par cette maman, d'ailleurs dont la dignité est inversement proportionnelle à l'horreur de cette affaire. On va l'écouter justement. Elle-même aussi, elle fait face au pire, disparition de son fils. Et, pardonnez-moi l'expression, il y a une forme de double peine et qu'elle ressent fortement, une forme de culpabilité. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, puisqu'elle dit elle-même qu'elle n'a pas pu le sauver. Écoutons-la.
Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et personne n'a pu le sauver, en fait. Ça fait 3 semaines et voilà, on ne réalise toujours pas. Et la colère, elle va être mise à bon escient. Elle va être, on va mener le combat derrière. Et on ne va pas s'en prendre à qui que ce soit. On ne va pas pointer qui que ce soit, ça c'est clair, parce qu'on a... Voilà, on est quand même assez mature. Hein. Enfin, on a autre chose. Lucas n'aurait pas voulu ça.
Alors, il y a le combat dans la société qu'elle compte mener à travers un combat, certainement à travers une association ou poursuivre avec d'autres associations. Et puis, il y a le combat judiciaire. Écoutons-la à ce sujet.
Ça reste des enfants. Il faut juste qu'ils... Je veux qu'ils réagissent à ce qu'ils ont fait. Je leur veux pas de mal. Je veux pas qu'ils... Voilà, ça reste des enfants. Ils ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais voilà, c'était récurrent, donc ben juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un ou... Mais c'est des enfants.
Personne ne peut ignorer que derrière ces harceleurs présumés, il y a aussi des familles. Et donc, il y a potentiellement beaucoup aussi de choses très difficiles, mais ce sont, si j'allais dire la justice prouve ça, Maître Gentier, ce seront des harceleurs. Il y a le harcèlement, il y a l'homophobie, c'est puni, tout simplement, bien malgré sûr. La mansuétude que peut avoir
oui,
cette maman.
Oui, c'est puni. Alors ensuite, je voudrais quand même préciser par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les... Alors, ils ont 13 ans, 13 et 14 ans, je crois, hein, les quatre personnes. Il faut savoir que les cas où on a des peines de prison qui sont prononcées entre 13 et 16 ans sont assez exceptionnels. Et d'ailleurs, enfin... Bon, je ne veux pas préjuger du procès, bien sûr, mais vous voyez, quand vous écoutez la mère, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que ça ne... Et c'est normal, ça ne lui rendra pas son fils. Que ça ne la concerne pas, ça ne l'intéresse pas. Moi, j'ai vu cette interview avec vous, cette conférence de presse, cette femme était complètement ailleurs, elle est bloquée, et c'est tout à fait normal par la mort de son fils. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si ça doit lancer un débat, typiquement ce type de drame, je pense vraiment qu'il y a un débat à lancer sur l'état d'ensauvagement de nos collèges. Le collège est une jungle dans laquelle des gens sont projetés. Et je pense que on ne mesure pas aujourd'hui ce qu'est le collège là, et ce qu'est l'arrivée du collège.
C'est un ensauvagement Le mot moquerie est trop faible, parce que mais là, comme il y a un procès qui vient, je ne peux pas moi préjuger et dire que ce sont des faits de harcèlement, mais là on parle de harcèlement supposé. Donc c'est un ensauvagement qui est par des mots, par des attitudes,
Il y avait, en tout cas, on va voir, mais du récit qui est en effet par cette mère et des échos qu'on a vus dans la presse,
Il y a eu des cas de jungle, un collège.
Personne ne voit ça aujourd'hui, la jungle est devenue un collège. Non, parce qu'en réalité, c'est pas une priorité. Enfin, c'est pas une priorité au niveau que ça devrait l'être pour le ministère de l'Éducation, mais c'est pour ça qu'il faut remettre. Il faut remettre de la verticalité. Je suis désolé, il faut en revenir à ça. Il faut considérer que les enfants, quand on ne les éduque pas correctement, il y a un rôle des parents aussi là-dessus. Je suis d'accord. Et ben, voyez ce que ça devient. Ça devient des monstres.
Très bien, mais que alors on verra les responsabilités
Je ne préjuge pas de la responsabilité. Bien sûr, je parle du cas général.
Parlons plus largement. C'est vrai que ça interroge quand même.
Ça interroge, mais en fait, ça revient toujours un petit peu au même point. Le problème des mineurs, le problème d'une violence, d'une société plus violente et plus jeune. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a traité des rixes entre bandes rivales où on a des victimes qui perdent la vie à 14 ans et on envoie des meurtriers présumés ou peut-être, ou autres, à 14 ans derrière les barreaux. Donc ça pose un vrai, vrai problème. Moi, je voulais aussi rebondir sur une chose, c'est que encore une fois, alors j'ai pas tous les éléments sur cette dramatique affaire, mais se pose le problème des réseaux sociaux. Une nouvelle fois, on a une génération qui vit 2.0 et qui prend argent comptant tout ce qui est écrit, diffusé.
C'est là que cache la forêt, que si on est capable, même à travers l'outil des réseaux sociaux, d'être aussi noir, foncièrement méchant, etc. Est-ce que ce n'est pas...
Ce n'est qu'un accélérateur de l'état
dans le monde.
C'est un phénomène, c'est un milieu, c'est une éducation.
Je pense que c'est un accélérateur réellement des problèmes de violence que traversent les jeunes dans la société.
Ça ne règle pas le problème à l'origine.
La difficulté que nous avons, c'est que le collège aujourd'hui, c'est là où se passe le passage de l'enfance à l'adolescence, et que ce passage à l'adolescence aujourd'hui se fait dans une logique de 2.0 avec tous les réseaux sociaux, et que quelque part, nous, il faut qu'on rentre dans ce système-là et qu'on apprenne. Il faut que l'éducation... là-dessus, remettre de la verticalité.
Remettre de la verticalité, il faut sauver.
Oui, mais
c'est une question de nature humaine, de la verticalité. N'a pas vu. Personne dans toute chaîne n'a pu voir. C'est impossible. On a voulu voir, je ne sais pas, c'est pas possible.
Derrière, après, on évoquait les correspondants.
Justement, la verticalité, c'est ça, c'est intervenir à un moment. Parce que là, on parle de. Moi, j'ai un fils qui a 12 ans. Je le considère comme un enfant, comme un gamin, et on a tous connu des enfants, on a tous vécu une enfance au collège, on a tous connu des enfants qui étaient harcelés, on sait très bien comment se crée le phénomène de bouc émissaire, le phénomène de meute. À un âge, on évolue, on est complètement paumé d'un point de vue d'identité, et avec toutes les conneries qu'on entend, on l'est encore plus. Et ben, on a besoin de prouver quelque chose, et soit on est suiveur, soit on est leader, pour pouvoir exister, on sait comment ça se passe. Et c'est pas forcément des gens qui sont foncièrement méchants, je pense pas. Il y en a évidemment, mais dans un collège, c'est, Pierre Gentil le disait, c'est une jungle, et dans cette jungle-là, c'est une micro-société. On essaie d'exister. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de pions, qu'il n'y a plus de parents, qu'il n'y a plus de profs, il n'y a plus de directeurs, parce qu'à un moment, quand vous apprenez que votre gamin fait une connerie, vous allez l'engueuler. Quand vous apprenez que votre gamin est harcelé, si vous avez une relation avec votre enfant va en parler, et vous allez essayer d'en parler
parfois
avec...
Parfois, il n'en parle pas, vous pensez...
Pourrait pas changer ça.
On peut prendre le problème en amont. Je suis d'accord, il faut qu'ils en parlent. Mais à l'origine, il faut que les comportements changent. Et pour que les comportements changent, je le dis, il y a un rôle au niveau de l'école. Il y a un rôle à remettre, je le disais.
Et la responsabilité des parents.
La verticalité. Je l'ai dit aussi, bien sûr. La responsabilité des parents. Mais parce qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais d'ensauvagement de la société, cet ensauvagement, il commence de plus en plus tôt. Alors, il y a des solutions étatiques, des solutions au niveau de l'éducation nationale, des solutions au niveau de l'éducation des parents. Avant tout, c'est un problème global. Mais si on ne prend pas la mesure du problème.
Vous m'avez dit tout à l'heure, sociaux, le harcèlement scolaire existe depuis la nuit des temps.
Mais pas dans les mêmes proportions.
On ne peut pas jeter l'opprobre uniquement sur l'éducation nationale et sur les parents. Je vous rejoins, chacun sa part de responsabilité. Mais dans ce cas de figure, je sais que ça va être impopulaire ce que je dis. Vous avez des individus jeunes ou très jeunes qui sont foncièrement malveillants. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène parce que ça les amuse. Ce ne sont pas tous les enfants de cet âge, et je pense que nous n'avons pas été des harceleurs.
Quelle est l'origine du mal là-dessus ?
Mais
Pas les réseaux sociaux, l'origine du mal.
On peut revenir là-dessus sociologiquement, anthropologiquement, humainement parlant.
Je pense
simplement
que l'origine du mal a beaucoup à voir avec l'éducation.
Non, mais attendez. Il y a des parents. Je ne donne pas raison. Je ne sais pas quel est le profil de ces parents et de ces enfants à l'arrivée. Cette maman, évidemment, était dans la douleur la plus profonde. Donc, sur certains aspects, comme je disais tout à l'heure, elle était un peu irrationnelle. C'est pour ça qu'on comprend sans comprendre si ça a été signalé, si l'éducation nationale était au courant. On ne sait pas. Mais il y a des camarades de classe qui l'ont vu. Ce jeune souffrait. Et en plus de ça, s'il y a la circonstance aggravante de l'homophobie, pardonnez-moi, ça se trouve, c'est la pierre angulaire de cette affaire. Maintenant, la sensibilisation est importante. Mais vous savez ce qui pêche, une fois de plus, et ce qui vraiment me traumatise, je trouve ça dommageable. C'est à chaque fois qu'on parle d'un sujet sociétal important, poignant, il manque des sous-effectifs. Et des effectifs, pardon, tout le monde est en sous-effectif et il y a un problème de formation. Prenez-moi un sujet sociétal sur le régalien qui n'a pas ce problème-là. Et là, on est en train de parler d'enfants qui vivent ça. Ce jeune garçon, tellement qu'il était acculé par ses... C'est pas des vannes, c'est pas des moqueries, évidemment, par cette blessure quotidienne, on arrive à une extrémité pareille.
Vous avez raison, mais dans le collège, il y a un professeur, il y a des surveillants, il y a des professeurs.
Des gens devaient savoir.
Il y a des camarades, il y a de savoir.
Il faut aussi que dans l'école, on assume ses responsabilités par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a des endroits, effectivement, les CPE sont passés, enfin, on appelait ça avant les pions, il peut manquer des effectifs, mais il y a aussi le regard qu'on porte sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut assumer ce problème-là. Donc, je ne suis pas là pour dédaigner les parents, parce que les parents, évidemment, ont un rôle central, mais quelquefois, les enfants n'osent pas en parler aux parents, parce que pour la logique, le phénomène de mode, d'identité, de bande, ils ne vont pas...
Il y a un autre élément. Les professeurs eux-mêmes n'en parlent pas.
Mais les professeurs, il y a des infirmiers, il y a des psys, il y a des camarades d'école.
Les infirmiers, il y a beaucoup de médecins.
Non, mais attendez, les infirmiers, alors pas dans tous les collèges et pas dans les lycées. Et généralement, c'est un jour sur quatre et un jour sur cinq. Par ailleurs, sur les professeurs, alors ce ne sont pas tous les professeurs, bien évidemment. Mais il y a aussi des cas où, vous voyez, par exemple, je ne parle pas de ce cas en particulier, mais on a des petits caïds, on a des personnes qui vont effectivement s'en prendre à une victime, à une personne, et le professeur parfois le voit. Mais pour contenter sa classe, pour faire en sorte que ce ne soit pas le bazar, bah, il va dire, bon, je ferme les yeux, je ne regarde pas. C'est une étude de lâcheté, mais elle existe.
En fait, je ne sais pas s'il faut plus de moyens, certainement, partout, dans tout, mais il faut surtout... la fermeté. Bah, il faut surtout, quand il y a le moindre doute, il faut y aller.
Ça veut dire qu'il faut remettre signaler. Une ligne. C'est ce non, que mais... j'appelais la verticalité. Alors le mot est peut-être...
Mais verticalité, mais autorité, fermeté,
à la sensibilisation. De la sensibilisation.
Oui, mais Caroline, on sensibilise à quoi? À être humain? Enfin, on ne va pas sensibiliser les gens à l'empathie. Mais devrait si, être humain.
Ça, c'est la question.
Oui, mais l'empathie, y compris à l'école, je pense que la question éducative sur la question de l'homophobie, si à un moment donné, on n'a pas ces échanges-là en classe... sous une forme ou sous une autre, et que les enfants qui... parce qu'effectivement, il y a des caïds dans les collèges. Il y a du caïda dans les collèges. Bah, à un moment donné, il faut sortir les caïds des collèges. Et là, on se retrouve dans une difficulté, c'est que, comme l'éducation, comme l'enseignement est obligatoire, on passe... Le caïd, on le passe d'un collège à un collège. Moi, j'ai été obligé, à un moment donné, de mettre en place une classe relais, parce qu'autrement, on passait d'un collège... Et le môme, il pourrissait en tournant
par rapport à ça. Il y a quand même quelque chose... La base, c'est quoi? La base, c'est un manque d'empathie. C'est pas de respect pour l'autre. C'est ne pas considérer l'autre comme dans son alternité.
D'où l'ensauvagement, les sauvages.
Mais c'est pas les grands mots.
À
12 ans, on n'est pas fini, on n'est pas formé.
Dans ce cas-là, on ne va pas être jugé, pardonnez-moi.
Ils font la différence entre le bien et le mal, quand même, ces jeunes.
13 ans.
Oui, on fait
13 ans. Non, mais s'il vous plaît, chers amis, vous êtes les mêmes. Et vous me dites que sur d'autres sujets, dans les violences en bande, ils sont responsables de cet âge-là. Et là,
non, mais il y a une différence majeure, Sonia, entre du harcèlement à l'école.
Pardon, parfois ils ont 13 ans.
Là, je parle de 12 ans, et il y a une différence entre le harcèlement à l'école qui a toujours existé et aller tabasser une vieille dans la rue pour 10 balles. C'est pas la même chose.
Pardon, je trouve qu'un harcèlement qui aurait conduit.
Non, parce que la différence. Non, mais je ne juge pas de là que je vous dis la différence, c'est que vous avez un phénomène de bouc émissaire, vous avez fait un phénomène de meute. Et ça, c'est un truc.
Mais là, on le sent
dans une personne âgée.
Girard, on peut relire tout ça.
Mais pardonnez-moi, mais c'est la même chose. Mais ce garçon, c'est un bouc émissaire.
Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est un bouc émissaire, justement. C'est ça le problème, c'est que c'est le collectif qui crée ça. Vous êtes dans emmuré, parce que dans une classe, il y a des murs. Vous êtes dans une micro-société. Il faut pouvoir exister là-dedans. Et pour exister, c'est soit on fait le con, soit on est le leader, soit on est le suiveur. Et c'est toujours comme ça. Et vous êtes toujours un bouc émissaire. Et vous pouvez faire la sensibilité.
Alors, vous me parlez de quelque chose qui est aussi vieille que le monde, c'est la théorie de René Girard. Donc, les réseaux sociaux ont peut-être amplifié, mais c'est là qui cache la forêt.
C'est René Girard qu'il faut relire. Et que vous pouvez sensibiliser tout ce que vous voulez. Là, c'est l'homophobie. Mais après, c'est parce qu'elle sera grosse. Après, c'est parce qu'il sera moche. Après, c'est parce qu'il soit chauve. Je veux dire, ils vont toujours trouver un prétexte. C'est ça le drame.
Donc pour pouvoir contenir ça, bah, il faut juste... Pour
non, mais ces gens sont des lâches qui s'en prennent à la faiblesse d'autrui. Et en soi, on a tous une faiblesse. Et puis on ne sait pas si ces jeunes avaient une emprise sur le reste de la classe. À voir ça aussi.
Ce que je disais, c'est
qu'il y avait un... Je voudrais préciser quand même que ce sont deux garçons et deux filles.
Exactement.
Et on voit la montée en puissance des jeunes filles dans ce type de
comportement. Et parfois, les filles sont pires que les garçons.
Exactement. Mais il faut que vis-à-vis des garçons et vis-à-vis des filles, c'est toujours...
Je pense qu'il faut considérer... Non, mais c'était juste pour rebondir, on disait exactement la même chose. Voilà, vous avez précisé deux garçons, deux filles, que l'on retrouve également sur les scènes violentes d'Eryx entre bandes. Je vais aussi vous préciser que pendant la Covid, malgré la fermeture des établissements, les faits de violence avaient augmenté entre jeunes, notamment par les réseaux sociaux. Il faut quand même en avoir conscience de ça. Donc oui, l'école, c'est de plus en plus difficile. Il y a la circulation des armes blanches ou autres, ou même des drogues dures que l'on peut retrouver au collège. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Mais je pense aussi que le contrôle des réseaux sociaux, la responsabilité des parents également... est importante. Peut-être et bien évidemment, réaffirmer l'autorité de l'État, redonner du pouvoir et de la crédibilité aux enseignants dans les écoles.
Mais là, ça, c'est les défis. Vous avez raison, c'est les défis à très long terme.
Regardez, on repratique l'éducation.
Bah, ils ne les prennent même pas à court terme, ce que vous voulez.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour le ministre de l'Éducation?
Nous sommes d'accord. Et on arrive à la fin.
Avant d'arriver en haut, la montagne, il faut commencer par le bas.
Je vous remercie. En tous les cas, on retiendra aussi la dignité de cette maman face à une
épreuve non-appel à la vengeance.
Extrêmement douloureuse. Merci, en tous les cas, d'avoir commenté ça. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Demain, vous vous en doutez, spécial. Mobilisation, ouais, contestation.
On y sera.
On y sera où vous serez.
Là, je serai à la manif.
Et ben vous serez à la manif et nous on sera partout avec nos journalistes, nos correspondants, petite ville, grande ville, moyenne ville, capitale, tout partout. À demain. Et moi ici.